Je vais vous présenter quelque chose donc sur une réflexion en fait qui articule les formes sociales de la production agricole, qui est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi au courant de ma thèse et puis après dans plusieurs autres recherches que j'ai pu faire. Et donc ces questions de distance producteur-consommateur et en fait en filigrane quand même, et je crois que c'est un peu plus fort, la question aussi de l'organisation dans l'espace des relations que peuvent nouer les producteurs agricoles en fonction des formes sociales de production dans lesquelles ils s'inscrivent. Voilà, ce serait plutôt ça. Et donc des réflexions croisées autour de l'exploitation paysanne et de l'agriculture de firme. C'est un espèce de grand écart, mais je pense qu'il y a des liens entre les deux, entre donc des formes de petite production agricole qui se présentent comme souvent alternatives et des agricultures de firme, qui est l'objet d'un programme de recherche qu'on mène avec justement François Pursègle et Bertrand Hervieux, qu'on a nommé tout à l'heure. Et on se pose un certain nombre de questions autour de ces formes-là. Alors j'ai deux claviers à gérer. Bon, j'essaie de regrouper un certain nombre de questions. En gros, quand même, ce qui m'interroge dans tout ça, enfin ce que je vais essayer de détricoter aujourd'hui, c'est cette articulation entre production, consommation et territoire, dans des cas de figure assez opposés, donc qui sont donc des agricultures de firme et des agricultures plutôt paysannes, ou en tout cas qui se revendiquent comme telles, pour être un peu plus prudente. Que je vous présenterai tout à l'heure, donc je ne vais pas encore les aborder en détail. Notamment, donc je vais articuler un peu le raisonnement autour de la présentation en fait de ces formes de production et essayer d'en tirer un peu des enseignements sur des questions de gouvernance justement des circuits alimentaires, de leur positionnement face à la crise alimentaire et des espaces productifs qui pourraient être associés à chacun de ces grands modèles de formes sociales de production agricole. Voilà, donc un cadre de réflexion qui est celui du rapport à l'espace du monde agricole des agriculteurs, rapport à l'espace qui s'exprime aussi via les circuits alimentaires qui sont mis en place derrière la production. J'ai essayé de mobiliser cette question de la distance, en fait, pour essayer de comprendre comment s'articulaient justement ces formes de production, ces formes sociales de production avec des circuits alimentaires et des territoires. En général, ce qu'on a l'habitude de voir sur ces questions-là, c'est quand même des travaux autour de la question de la proximité qui est davantage mobilisée, mais qui est davantage mobilisée autour de cas bien particuliers et qui ont un certain succès ces dernières années, notamment dans les études agri-alimentaires, donc c'est les études sur les circuits courts et sur la question de la relocalisation de la production agricole. Donc ça marche pour certains cas que j'ai pu étudier, mais pas pour tous. Et par ailleurs, la proximité, elle est aussi inscrite dans un champ, dans une école en fait de la proximité, enfin ce qui est présentée par certains comme une école qui fait de l'économie territoriale hein, et qui mobilise beaucoup cette question de la proximité. Alors comme ça ne m'était pas utile pour tous les cas envisagés, je me suis dit ben, on va essayer de prendre le contrepoint et d'étudier plutôt ça à partir de la question de la distance et donc d'interroger en fait la séparation entre des producteurs et des circuits avec toutes leurs composantes. Sans présumer forcément du résultat qui soit la proximité d'un côté, soit au contraire, justement, la distance, l'éloignement. Je suis allée chercher chez Jacques Lévy, qui nous définit la distance comme l'attribut de la relation, donc c'est l'approche relationnelle de Jacques Lévy, hein, l'attribut de la relation entre deux ou plusieurs réalités qui caractérise un degré de séparation par différence avec l'état de contact. Donc c'est bien de s'interroger en fait sur qu'est-ce qui fait contact, qu'est-ce qui fait séparation et comment on réfléchit ces points de contact et de séparation entre différents acteurs, voire différents objets, puisque Lévy aussi considère qu'il y a des actants qui sont des choses. Dans la lignée un peu de la tour. Et il nous dit plus loin que la géographie des réseaux et celle des limites traitent tout autant de la distance que celle des territoires et des gradients. On a donc en fait deux types d'approches de la distance, une qui serait fondée sur la continuité et la discontinuité, et l'autre sur la contiguïté, donc plus davantage territoriale. Voilà, et cette relation, en fait, et cette distance, on peut l'aborder dans des dimensions spatiales, sociales ou culturelles et politiques. Donc je vais essayer. Maintenant, je ne suis pas très satisfaite du résultat. Mais ma foi, c'est fait, c'est fait. Tout ça autour d'un grand champ de questionnements en fait sur le monde agricole en général et des évolutions du monde agricole pour lesquelles, me semble-t-il, et on est un certain nombre à être d'accord là-dessus, il y aurait besoin de nouvelles clés de lecture pour repenser un peu des évolutions qui semblent être des évolutions de fond de ce monde agricole. Alors, certaines qui ont trait un peu à la discussion qui s'est clôturée tout à l'heure, hein, justement, autour des marchés et de la régulation des marchés. On a une actualité plutôt porteuse sur les marchés agricoles et sur ceux des commodities en particulier, avec un certain nombre de travaux de prospective qui nous disent que ça va continuer à être porteur. Donc ça, c'est un élément. En parallèle de ça, on a de la financiarisation, justement, sur ces marchés-là, qui se produit à plusieurs niveaux, hein, au niveau de la production, de la commercialisation, en amont, en aval, en fait, de la production agricole. On a une utilisation de plus en plus prégnante des NTIC, dans tous les types d'agriculture, d'ailleurs. On reviendra dessus, certainement. Autre élément de contexte, je pense, important, c'est la mondialisation commerciale qui aboutit à une mise en concurrence des exploitations lorsqu'elle est associée à un désengagement des États ou des ensembles type Union européenne des politiques agricoles, en tout cas une libéralisation des politiques agricoles qui met en concurrence les exploitations. Et une thématique un peu plus récente autour de la raréfaction foncière. Donc tout ça crée une espèce d'ébullition autour du monde agricole, de la part des acteurs agricoles eux-mêmes, mais de la part aussi de tous ceux qui s'y intéressent et qui se disent qu'on pourrait faire des choses autour de ces grandes tendances. En parallèle, une nouvelle donne environnementale, évidemment, et une croissance urbaine qui pose un certain nombre de questions sur la capacité du système à répondre aux besoins à moyen long terme, disons à long terme. Et puis, donc, des demandes sociales renouvelées qui s'adressent à la production agricole et qui viennent introduire, en fait, un élément supplémentaire dans ces évolutions-là. Ça, c'est pour des grandes tendances contextuelles et... on observe, quand on regarde un peu les statistiques des derniers recensements agricoles dans différents pays, qu'on a une dichotomie croissante entre les macro et les micro-exploitations. On a une émergence, ou en tout cas un foisonnement de macro-exploitations dans différents pays. On le voit en France, on le voit, donc je travaille beaucoup sur le Brésil, on le voit au Brésil. J'ai travaillé un petit peu en Ukraine, on le voit aussi, elles existaient déjà, mais elles ont tendance à se renforcer. Et en parallèle, des micro-exploitations qui ont tendance à se développer, à se multiplier. Je prends le recensement américain aussi, le recensement agricole américain amène à peu près le même type de constat. Donc on a un peu une bipolarisation en agriculture. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pu travailler au cours de différents travaux justement sur ces deux pôles, en fait, de macro et de micro-exploitation. Concernant les micro-exploitations, j'ai pu travailler aux côtés de Michael Pouzin, qui va venir le mois prochain, vous parlez certainement de ce sujet-là, sur les AMAP et les circuits courts dans la région Midi-Pyrénées. Ça s'est soldé par un rapport en 2008, qui faisait un peu un état des lieux sur ces circuits, sur l'émergence de ces circuits en Midi-Pyrénées. Et actuellement, je travaille un petit peu sur le PNAE, c'est un programme alimentaire... au Brésil, qui vise en fait à recréer du lien local entre les cantines scolaires et les producteurs familiaux et à essayer d'obliger par la contrainte à tisser en fait des réseaux d'approvisionnement locaux des cantines en imposant aux cantines scolaires d'utiliser 30% de leur budget à des acquisitions de l'agriculture familiale locale, donc du municipe ou des municipes avoisinants. Donc une volonté de recréer là des dynamiques transversales entre alimentation et production agricole, pilotée par les pouvoirs publics, ce qui n'est pas du tout le cas, par contre, de ce qu'on peut voir en France autour des AMAP. Et à côté de ça, je travaille dans une ANR qui s'appelle AgriFirm, donc qui est pilotée par François Purseigle, lui est sociologue, où l'interrogation en fait de fond, c'est justement d'essayer de revoir les idéotypes d'entreprises agricoles, sur les formes sociales de la production agricole, avec un constat de départ, c'est que, quelque part, la réflexion s'était un peu soldée. On avait constaté la fin des paysans. On avait ensuite constaté l'émergence et la consolidation de l'agriculture familiale dans le cadre européen. Et puis, on s'en était un peu arrêté là, de la réflexion sur ces formes sociales de production. Et on avait plutôt basculé après sur des questions de multifonctionnalité territoriale ou agricole. Or, on observe, à la fois dans ces macro- et ces micro-exploitations, des choses qui ne relèvent pas tout à fait de l'idéal type de l'agriculture familiale. Et on s'est dit qu'on avait besoin, en fait, de repenser ces idéotypes et d'essayer de caractériser un petit peu ces formes qui divergeaient de l'agriculture familiale. Alors, on s'est concentré sur la firme agricole. Enfin, la firme, c'est un pavé dans la mare, en fait. On n'est pas très sûr au départ qu'on va réellement trouver des firmes, mais en tout cas, c'est pour voilà, créer une image qui fasse réagir. Et donc, essayer donc, de retravailler ces idéotypes, donc avec une approche pluridisciplinaire ici, et vraiment un travail de caractérisation assez simple, plus pour les géographes, des questions sur les interactions avec l'espace local et avec les différents espaces d'action de la firme agricole. Ça a été fait, et c'est en train de se faire, en fait, donc c'est des résultats là-dessus encore préliminaires, on va dire, au Brésil, à travers deux terrains brésiliens, et en Ukraine, un terrain qui a été fait en 2010. Et je vais commencer, en fait, par détailler un petit peu ce qui se trouve derrière ces profils d'entreprises agricoles qui tendraient vers la firme, en essayant de vous permettre de voir un peu mieux de quoi il s'agit et comment on peut réfléchir après les liens avec le local et avec les circuits alimentaires. Ces profils d'entreprises agricoles qui tendent vers la firme, là, c'est des résultats pour l'instant qui sont... C'est uniquement ce que j'ai, moi, issu à partir de mes enquêtes de terrain. Donc, c'est des indicateurs que j'utilise, moi, qui ne sont pas tous partagés par l'ensemble de l'équipe. Mais en tout cas, c'est des indicateurs qui sont que je suis allée chercher dans la littérature, dans les sciences humaines et sociales, autour justement des formes sociales de production, et en économie agricole aussi, ou en gestion, où il y a pas mal d'indicateurs existants sur comment caractériser en fait les entreprises agricoles. Et je vais rentrer dans le terrain. Un terrain qui a été fait dans l'ouest de la Bahia, donc au Brésil, où on a 85% des superficies agricoles qui appartiennent à des exploitations de plus de 1000 hectares. Donc pour dire qu'on a ciblé là une région en fait de production agricole, ça c'est un concept de Denis Elias, région de production agricole, qui est vraiment dominée par des grandes exploitations, en tout cas en termes fonciers, hein, une domination sur le foncier. Et le Mato Grosso do Sul, ici, qui... lui compte 75% des superficies appartenant à des exploitations de plus de 1000 hectares et qui actuellement connaît une forte dynamique autour de l'avancée de la canne à sucre et avec d'ailleurs des biais statistiques ici puisque la canne à sucre qui avance dans cet état-là, elle se fait pas sur des terres propres mais sur des terres louées et donc dans les statistiques ça n'apparaît pas mais c'est plusieurs milliers d'hectares autour de chaque usine, c'est l'usine qui loue directement des terres. Un zoom en fait sur le Mato Grosso do Sul avec un peu une idée de la progression des surfaces semées en canne à sucre entre 2006 et 2010. On voit que c'est des dynamiques très récentes. Donc c'est des acteurs qui se sont implantés aussi très localement, très récemment, et qui avancent vite, hein, et qui s'installent pour l'instant plutôt dans la partie sud de l'État, en continuité en fait avec un front agricole qui vient de São Paulo et qui est actuellement en saturation et donc qui se reporte sur les États voisins. Donc avancée assez rapide et nouveaux acteurs. Ici, c'est une carte qui représente l'ouest de l'État de Bahia où on a en fait un plateau, hein, un plateau agricole. Et c'est essentiellement en fait ce plateau qui est mis en agriculture par des agricultures qui tendent vers la firme, avec également une dynamique assez récente, c'est-à-dire une colonisation qui date des années fin 70, début 80, et qui s'est intensifiée surtout dans les années 90, et avec donc une colonisation qui suit beaucoup là les caractéristiques naturelles et climatiques. En fait, c'est donc les meilleures terres, les plus intéressantes ont été prises au départ, et puis on s'étend ensuite vers des terres moins intéressantes. Mais c'est un front agricole qui, contrairement à ce que tout le monde dit, est encore actif. Voilà, tout le monde dit c'est stabilisé. Non, c'est pas stabilisé, c'est encore actif. Et puis, il y a, comme sur tous les fronts agricoles, remplacement des premiers acteurs par de nouveaux qui ont tendance à avoir des échelles d'action beaucoup plus vastes. Voilà, ça c'est pour montrer que c'est encore actif. C'est une photo qui a été prise l'été dernier sur ce front agricole, donc où tout le monde dit qu'il n'y a plus de front et que tout est colonisé. Donc qu'est-ce qu'on va trouver sur ces différents terrains? Des profils qu'on retrouve d'ailleurs peu ou prou identiques en Ukraine. Donc je retrouve ici des choses entre le Brésil et l'Ukraine qui sont assez semblables, en sachant donc que je me suis focalisée sur les grandes entreprises, d'accord? Donc j'ai pas du tout pris en compte toute la flopée d'autres entreprises agricoles qui existent, et notamment paysannes. Un premier profil, il y en a quatre. Un premier profil que j'ai appelé entreprise familiale, qui est en fait la plus proche de ce qu'on connaît habituellement par l'agriculture familiale, où l'agriculture serait la profession principale du chef d'exploitation, avec un travail familial très présent, alors la famille pouvant être plus ou moins élargie, en général assez restreinte, mais le travail repose d'abord sur la famille. C'est les caractéristiques principales de l'agriculture familiale. Une gestion qui relève également de la famille et ici une famille plus élargie, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du groupe familial qui va participer à l'élaboration de la stratégie, du pilotage et aux décisions qui concernent le patrimoine de l'entreprise, qui est aussi en général celui de la famille. Et des superficies qui sont relativement modestes en comparaison d'autres types d'entreprises qu'on peut trouver dans ces régions-là. Bon, ça c'est un exemple d'un agriculteur que je considère s'insérer dans ce profil-là. Voilà, il est vraiment de taille modeste et il travaille avec son épouse et ils sont tous les deux sur l'exploitation avec un salarié et ils réalisent à trois l'ensemble du travail. Un deuxième profil qui est appelé entreprise patrimoniale, où la superficie ici devient un facteur distinctif parce qu'elle elle implique des modalités d'organisation différentes. On ne peut plus organiser l'activité agricole de la même façon, du fait de la superficie qui est beaucoup plus importante et qui donc sur le plan organisationnel a deux conséquences. La première, c'est une division spatiale du travail dans la région de production agricole. Donc on va organiser le travail dans plusieurs établissements, certains étant consacrés à la production agricole et d'autres davantage à la gestion par exemple, d'autres couplant les deux. Mais en tout cas, on a en général plusieurs établissements agricoles et un centre qui va coordonner l'activité au sein de la région de production agricole. Et en parallèle, ça s'accompagne d'une division verticale du travail avec des structures assez pyramidales et assez hiérarchiques, comme on en voit dans le reste du monde du travail. Ces entreprises patrimoniales, en fait, elles sont, pour la plupart d'entre elles, encore sous la houlette de la famille qui intervient dans la gestion et dans l'élaboration de la stratégie. C'est-à-dire que, en général, ce sont des exploitations qui ont commencé exploitation familiale et qui sont devenues plus grandes, qui ont grandi, qui sont complexifiées dans leur organisation, dans leur structure, dans leur financement aussi, mais qui restent encore assises sur des bases familiales et qui ont encore un fonctionnement raisonner à partir des intérêts de la famille d'abord. Ça amène en fait ces évolutions successives un caractère assez artisanal et cumulatif des changements, c'est-à-dire qu'on est parti petit, en général on est assez peu formé et on va s'adapter à cette taille qui augmente et qu'on ne sait pas toujours gérer. Et en général, une façon de s'adapter, c'est de recruter des salariés qui eux savent faire, donc on recrute des gestionnaires, des juristes, des comptables qui, eux, savent gérer ce que le chef d'exploitation initial ne sait pas gérer. Et on délègue donc ce genre de sujet un petit peu épineux et puis très important pour la survie de l'entreprise. Et on continue, par contre, à piloter l'ensemble de l'entreprise à partir de caractéristiques familiales. Voilà. Sauf que quand ça devient grand, avec un statut en général, ce sont ces entreprises qui sont pour certaines des mastodontes, en fait, ont un statut de personnes physiques. Elles sont attachées à la personne, comme nos vieilles exploitations ici, les plus simples en fait. Donc il n'y a pas de statut juridique spécifique à l'entreprise, ce qui crée tout un tas de problèmes, notamment pour la transmission. Quand on veut transmettre à la descendance, ça ne fonctionne plus parce que ça représente trop d'argent et on n'arrive pas à diviser ça entre différents enfants et à compenser les uns et les autres. Ça représente trop d'argent et c'est plus possible à faire. Donc c'est un des problèmes de cette entreprise-là. Alors ça, c'est un exemple. Dans l'ouest de Bahia, de nouveau, Le centre ici, alors ça ne correspond pas à cette entreprise-là, mais disons que ça serait en gros l'organisation de la partie centrale vraiment qui pilote l'entreprise. Et puis derrière, donc, vous voyez un ensemble d'infrastructures et puis des champs, des superficies qui sont assez vastes hein, et assez monotones en plus, et des infrastructures assez lourdes, y compris avec ici, ils produisent de la semence et donc avec un laboratoire d'analyse et de transmission de données aussi sur place. Donc ce sont des entreprises qui sont quand même assez équipées et qui ne s'intègrent plus du tout dans ce qu'on peut penser être l'agriculture familiale, avec quand même, alors pour le coup, quelques résidus de familles qui sont encore assez présents. Et on retrouve le volet alimentaire, les employés et les travailleurs, en fait, sont alimentés par une basse-cour qui est entretenue sur l'exploitation, chose qui est à peu près impensable dans les autres exploitations de firmes. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on a gardé d'une culture familiale. Une petite chapelle où sont enterrés les parents, qui ont été les premiers migrants, les pionniers, et les enfants les ont suivis, et donc ont mis une chapelle sur l'exploitation pour les parents. Donc ça, c'est vraiment, on est sur le siège de l'exploitation ici, et des petits cadres qui reprennent un peu l'épopée familiale et qui racontent un peu ce succès colon, qui est en fait assez représentatif de beaucoup d'entreprises de ce type-là dans ces régions-là. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît un petit peu déjà. Dans les années 2000, il y a des signes de changement qui seraient, à notre sens, des changements plutôt structurels. Et on voit apparaître, ou se développer en tout cas, même si elles existaient déjà, elles se développent particulièrement, d'autres types d'entreprises. Donc il y a deux profils qui s'intègrent dans ces inflexions. Un profil que j'appelle entreprise d'investissement, où là, on a des acteurs qui ne sont pas des acteurs agricoles, qui investissent en agriculture et qui agissent directement sur la production agricole, chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire jusqu'alors. Ça peut prendre différentes formes. Souvent, c'est des holdings, mais ce n'est pas toujours des holdings. On trouve beaucoup de holdings au Brésil et on en trouve énormément en Ukraine, notamment, avec des stratégies qui sont ici beaucoup plus spéculatives et qui se font beaucoup plus donc en fonction de résultats financiers. Beaucoup plus que d'autres types de rationalité. La division du travail, évidemment, elle est très présente et on a ici une grande attention à recruter des cadres qui sont hautement qualifiés et qui sortent des meilleures écoles, soit de gestion, soit d'agronomie, soit de droit. D'accord ? Donc on a tout un système avec des cadres qui pilotent l'exploitation depuis le haut. Une forte propension à l'innovation sur les plans techniques. On utilise beaucoup justement les NTIC pour contrôler le travail à distance notamment et pour normer le travail pour pouvoir... Alors le travail sous toutes ses formes, hein, y compris comptable, tout est normé de façon à pouvoir transmettre des résultats et contrôler des résultats à toutes les échelles de l'entreprise, à tous les niveaux de l'entreprise. Innovation aussi sur le plan de la commercialisation. On a tendance à intégrer un certain nombre d'activités et agir directement sur les marchés. Donc on a un prolongement vers l'aval de la production agricole, ce qui recrée des liens qu'il n'y avait pas chez les autres, et donc dans la gestion avec un découpage systématique de toutes les tâches et de tous les objectifs pour pouvoir contrôler. Une division du spatial du travail qui est organisée ici selon des logiques de proximité et d'avantages compétitifs, c'est-à-dire que par rapport aux autres, on va se positionner tantôt à proximité des unités de production, qui sont, elles, multilocalisées. Elles ne sont pas nécessairement toutes concentrées dans une seule région de production agricole. Elles peuvent être dans différents États du Brésil, voire dans différents États d'Amérique latine, par exemple. Et on va choisir, justement, ces localisations à partir d'avantages compétitifs. D'accord ? Donc, on va organiser où on produit à partir d'avantages compétitifs. Et ensuite, on va localiser, selon des logiques de proximité, les unités de gestion et de commercialisation. Et donc, pour organiser tout ça, ces entreprises qui ont des milliers d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares, eh bien, l'information a un rôle décisif et on va utiliser beaucoup les NTIC à toutes les phases, en fait, de la production agricole parce que ça permet de contrôler le temps, de contrôler la distance et donc l'éclatement des unités de production et des unités de gestion aussi. Et ça passe donc par une normalisation des tâches qui permet en retour le contrôle de ce qui se fait sur les différentes unités. Et un Hollandais qui était sur son exploitation, enfin sur l'exploitation dans laquelle il a des parts et pour laquelle il prête aussi des services agronomiques au moment où j'y étais, donc il se rend tous les 15 jours, non, tous les 2 mois pendant 15 jours au Brésil pour surveiller un peu les activités de l'exploitation, d'une des exploitations, pardon, de son groupe, donc qui est une holding de multiples investisseurs, me disait aujourd'hui tu peux faire de l'agriculture de n'importe où. Et tu peux faire de l'agriculture depuis la Hollande, peu importe où tu es, quand tu prends une décision. En gros, il m'expliquait, moi, quand les moissonneuses-batteuses sont dans les champs à Bahia, je suis dans mon bureau en Hollande et je surveille l'état des rendements. Voilà. Alors, c'était peut-être un peu provocateur, mais je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il me disait. Et donc, on a vraiment des rapports aux lieux de production et aux produits aussi, sans doute, qui sont complètement transformés hein, avec ces nouvelles modalités d'action qu'on n'avait pas l'habitude de voir en agriculture. Donc ça, c'est un exemple d'une entreprise nationale. Elle est brésilienne aussi, donc j'avais des firmes ukrainiennes, mais je n'ai pas réussi à récupérer les photos à temps. Voilà, qui se positionne dans plusieurs états du Brésil, avec un agronome en chef qui surveille les champs et qui fait le tour des champs en 4x4. Et c'est son activité de la journée, en fait. Le matin, il coordonne les employés, puis ensuite, il part faire le tour pour regarder un peu dans quel état c'est, sur une exploitation, un parc machine qui est assez imposant. Hein. Et, bon, des choses qu'on voit beaucoup sur des photos brésiliennes. Et puis, une petite intégration verticale, à mesure où ils transforment une partie du coton, déjà, pour avoir une fibre propre et la revendre directement, là, à l'export, sans passer par des intermédiaires. Donc, innovation commerciale dont je parlais tout à l'heure. On peut se le permettre parce qu'on a un effet de taille. Il y a un quatrième profil qui est assez innovant, à mon sens, en tout cas dans ces contextes-là, qui est ce que j'ai appelé l'entreprise agri-industrielle. On en trouve beaucoup dans le sucre au Brésil. J'en ai trouvé quelques-unes dans le blé, justement, en Ukraine. À quoi ça correspond, ce profil-là ? Ben, c'est des fusions et acquisitions autour de l'outil industriel et de son aval. D'accord ? Donc, en fait, c'est vraiment une industrie, en fait, une industrie qui grandit, d'accord, à coup de fusion-acquisition. Et puis, qui, pour des raisons de gestion des approvisionnements et de gestion de la qualité, intègre, en fait, une partie de l'activité agricole et effectue elle-même directement une partie de l'activité agricole. Donc, on a concrètement des usines au Brésil qui n'avaient pas l'habitude de produire du sucre, hein, qui normalement passaient contrat avec des producteurs. Là, passent contrat avec une entreprise qui produit ou alors achète sa propre machinerie et commence à produire sur des terres qu'ils louent, s'ils n'ont pas les moyens de les acheter, pour assurer des approvisionnements dans un environnement assez concurrentiel où beaucoup d'entre eux, en fait, cherchent à s'approvisionner. Donc, une façon sûre de sécuriser les appros, c'est d'intégrer verticalement et d'assurer soi-même la production agricole. Ça, c'est assez récent, en fait. On n'avait pas l'habitude de voir ça dans ce secteur-là. Ça passe par le même type d'innovation qu'on avait tout à l'heure, avec en plus une innovation autour du foncier, c'est-à-dire qu'on a des accords et des contrats de location dans un pays, au Brésil, où ça n'existe normalement pas dans ces secteurs-là. On ne loue pas du foncier, on essaye de l'acheter. Hein, sur les autres fonds agricoles, on a y compris de la spéculation autour des acquisitions foncières, justement, des grandes entreprises agricoles. Ici, on loue, parce que la logique est une logique industrielle d'abord, et non pas de spéculation autour de produits agricoles. Et on a, évidemment, du fait de fusion acquisition d'un outil industriel qui est assez imposant, ben, on a des multilocalisations. Ici, selon une logique de proximité, des approvisionnements et d'opportunités, dans la mesure où on va pister les appuis publics à l'implantation d'usines et on va s'installer où on aura le plus d'aide publique, en général. Donc, ce n'est pas qu'une question là, d'avantages comparatifs fondés sur des caractéristiques naturelles. Voilà un exemple d'une usine flambant neuve avec les champs de canne à l'arrière et puis du soja encore en contrefond. On voit que, même chose, ce sont des structures assez imposantes, hyper modernes, qui font à la fois du sucre, de l'éthanol, et qui savent donc se positionner sur différents marchés, du sucre ou de l'éthanol. Et voilà donc pour les différents profils d'entreprise. J'ai pris soin de les décrire un peu, parce que je pense que c'est important de voir que dans la grande agriculture, il n'y a pas une, mais des grandes agricultures, et on essaye donc d'essayer de les différencier les unes par rapport aux autres pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. À partir de là, quelques réflexions sur les espaces productifs de ces entreprises, qui vont être distingués en fonction d'horizontalité et de verticalité. En fait, les horizontalités correspondraient à... Horizontalité, c'est un terme qu'utilise Santos, Milton Santos, donc il y a un géographe brésilien. Ça correspondrait peu ou prou aux contiguïtés dont parlait Jacques Lévy tout à l'heure. Il définit ça comme des étendues continues formées de points qui se regroupent sans discontinuité. Donc on parle ici d'espace contigu. Les horizontalités que peuvent nouer ces entreprises, elles sont essentiellement sectorielles, donc assez peu transversales en fait, autour du secteur agroalimentaire, dans son amont et son aval, où on va nouer des relations qui sont essentiellement professionnelles et à visée en fait utilitariste. Les exploitants, en fonction des différents types d'entreprises, eux, sont plus ou moins inscrits dans l'espace local. Les deux premiers profils dont j'ai parlé, ce sont des exploitants qui vivent dans l'espace local, dans l'espace dans lequel ils produisent. Donc on a ici, à partir de l'exploitant, le tissage de liens qui vont aussi au-delà de la seule activité agricole. Ce n'est pas le cas des deux autres profils qui, eux, sont vraiment uniquement... productif, on va dire, et les personnes qui pilotent l'activité ne sont pas présentes dans l'espace local et donc vont déléguer l'ensemble des tâches et n'ont pas de relation particulière avec cet espace-là. Ce sont des espaces dans lesquels les colons et les personnes issues des deux premiers profils, en fait, ont constitué ce que Heredia, qui est un anthropologue au muséum de Rio, considère comme étant une société de l'agribusiness. Donc on a constitution de sociétés locales qui sont complètement organisées par et pour l'agribusiness, alors ça se reproduit sur tous les champs de la vie sociale. Je vais vous montrer deux exemples en suivant, mais en tout cas il y a une assise territoriale qui est complètement réinventée par ces acteurs-là. Alors un exemple ici, c'est une photo, enfin deux choses ici. Le premier, c'est un centre de recherche complètement privé et financé par justement l'agribusiness local qui a mis en place tout un tas de services en fait à la production, mais qui garde sous sa houlette et qu'il finance lui-même. Donc on a une dynamique sectorielle, mais qui commence à avoir des ramifications et à s'organiser assez sérieusement dans l'espace local. Et puis ici, c'est une journée de démonstration autour de semences, justement, et où il y avait une affluence. On avait à peu près 1500 producteurs qui étaient là ce jour-là pour visiter les champs et visiter les semences. Donc on voit qu'on a quand même derrière tout ça un tissu social assez fort, une capacité à mobiliser des acteurs sur une journée. Et donc ça, c'est l'aspect assez pratique et matériel. Et puis ici, on a quelque chose que je trouve assez symbolique, en fait. C'est une carte qui a été élaborée justement par par les représentants de ce secteur-là, qui représente à la louche 300 km sur 450 à peu près, d'accord ? Et où on va représenter, alors non pas les centres urbains et les différents services qu'on peut trouver dans la région de production, sur le plateau, mais les différentes fazendas pour permettre aux visiteurs d'y accéder et pour permettre aux différents intervenants du secteur d'accéder aux fazendas. Donc il y a un côté très, très pratique et utile dans ce plan-là, mais moi j'y vois aussi la production de symboles et de représentations sur un espace on va complètement gommer tous les autres attributs et toutes les autres composantes de cet espace-là, y compris les villes qui normalement sont quand même assez nodales dans des plans et dans des cartes. Là, elles apparaissent même pas. Elles sont représentées par des petites briques. Et à côté de ça, on a absolument toutes les fazendas existantes dans la région. Alors ces types d'agriculture, elles s'inscrivent aussi dans des verticalités ou continuités, si on reprend la définition de Lévy tout à l'heure sur la distance, qui sont beaucoup plus prégnantes, c'est-à-dire que à côté de ces liens territoriaux, on va dire, on a des choses beaucoup plus verticales, puisque plus on va vers la firme, plus on a des phénomènes de multilocalisation et de délocalisation des établissements agricoles ou des établissements de gestion. qui sont vraiment très très forts. Donc on peut être implanté dans plusieurs endroits d'un même État, mais aussi dans plusieurs États du Brésil, voire dans plusieurs États de l'Amérique latine, voire transcontinentaux. On a par exemple, comment est-ce qu'il s'appelle maintenant, Charles Villegrain et notre ami investisseur là, qui est en Ukraine et qui fait beaucoup parler de lui, non ? Beck BD, voilà, qui a justement des établissements en Ukraine. Il a, je crois, 300 000 hectares en Ukraine et investit maintenant en Argentine. Donc on a ce type de phénomène-là qui sont aussi présents dans des établissements plus petits. Hein, ça, c'est vraiment le haut du panier, mais on voit dans des établissements plus petits qu'il y a aussi ces phénomènes de multilocalisation qui sont assez forts. Une intégration verticale assez forte, je ne vais pas revenir dessus. Bon, voilà. Ce que je veux en dire ici, c'est que ces acteurs-là, ils sont insérés dans des espaces de gouvernance qui sont assez globalisés. Pourquoi ça ? Parce que les sièges sociaux, les lieux de gestion se situent en général dans des métropoles. Les entreprises, pour les plus spéculatives d'entre elles, sont enregistrées dans des paradis fiscaux. Enfin, pour une majorité d'entre elles, et ça c'est vrai en Ukraine et c'est vrai au Brésil. Jersey, Guernesey sont plein de sièges de ces entreprises-là. Les places financières y occupent aussi une place importante parce que c'est là que vont se négocier les contrats et c'est donc à partir d'elles aussi que l'on va prendre des décisions. Et donc on peut se dire que ces paradis fiscaux, les métropoles et les places financières deviennent des points nodaux de la gouvernance des entreprises et l'espace productif agricole en fait est un élément parmi d'autres, mais n'est plus aussi central que ce que ça pouvait être dans nos représentations jusqu'à présent. Donc on aurait autour de l'agriculture ici un réseau d'acteurs et d'entreprises qui se constituent en fait dans un jeu d'échelle non emboîté. Hein, on n'a pas un emboîtement administratif, mais on va se localiser en fonction de ce dont on a besoin dans chacun des espaces dans lesquels on va se placer. J'essaye de retomber sur mes pieds autour de la question alimentaire maintenant, puisque c'était quand même ce qui nous occupait. Qu'est-ce qu'on a derrière ça comme circuit alimentaire et plus que comme circuit alimentaire, comme type de gouvernance autour de l'alimentation ? Au niveau agricole, justement, on a un changement et une complexification de la gouvernance. Je m'autocite pas pour me graisser la patte, mais parce que on a présenté un travail à plusieurs, donc c'est pas que ma réflexion, c'est aussi celle de Martin Guibert et Denis Requier-Desjardins dans un article qu'on a présenté à Toulouse en 2012, dans lequel en fait on avance que la gouvernance se complexifie parce que il y a une maîtrise d'un paquet technologique autour notamment des OGM et de tout ce qui leur est associé, et aussi des agricultures de précision et de tout ce qui leur est associé, donc de l'information et une maîtrise du capital également, avec des circuits financiers qui ne passent plus forcément par les circuits bancaires institutionnels. On a une financiarisation de ce secteur et un basculement du pouvoir de négociation en faveur d'acteurs de la production qui sont de plus en plus imposants, en fait, en termes de volume, tout simplement, hein, de volume à mettre sur les marchés. Et Bizang parle, dans ce cas-là, d'un fractionnement de la chaîne de valeur dans les commodities, c'est-à-dire qu'on a, des gens qui nous disent que la chaîne de valeur se déplace en fait vers la distribution, et notamment vers la grande distribution au fil de l'histoire. Hein. Peut-être qu'on a ici en fait un repositionnement, ou en tout cas une fraction de cette chaîne de valeur, avec une partie qui effectivement va bien du côté de la distribution, et puis une réappropriation d'une partie de la valeur par ces acteurs-là, au travers justement de ces outils financiers et de ces stratégies dont ils font preuve. En revanche, on a un effacement du métier d'agriculteur, parce que peut-on encore parler d'agriculteur dans ce cas-là ? On a bien des structures de production agricole, maintenant les gens qui sont derrière, on ne peut plus vraiment, pour les cas extrêmes, parler d'agriculteur, plus du tout même parler d'agriculteur. Et plus d'inscription donc dans des enjeux locaux qui seraient transversaux. On a vraiment une utilisation vraiment fonctionnelle des espaces de production. Et donc un pilotage du système agroalimentaire ici par la norme, parce qu'il faut normer les choses pour pouvoir les faire passer et les faire circuler, sanitaire, qualité industrielle et normes comptables. et non plus par des jeux sociaux qui pouvaient avoir lieu avant. Alors bon, c'est peut-être un peu excessif, mais disons que la norme prend une place de plus en plus forte dans ce type de système-là. Et Laurence parle dans un article qui a été publié en 2012, si je ne m'abuse, d'un troisième food régime. Donc c'est dans la lignée des food régime studies, hein, où on voit un peu l'évolution dans le système capitaliste des régimes alimentaires. Laurence parle justement d'un troisième âge en fait de ces régimes alimentaires, où on aurait un régime d'accumulation qui est issu de la financiarisation dans l'agriculture et dans la distribution. Donc on revoit à nouveau ce fractionnement de la chaîne de valeur entre agriculture et distribution, et qui serait, à son sens, le stade ultime du développement capitaliste. Et Laurence parle justement de financialisation in reverse, donc un retour, en fait, une réappropriation des outils et des moyens d'action financiers par les propres acteurs de la production agricole, donc qui s'en emparent et qui les mettent à leur service, plutôt que d'y être toujours soumis via les marchés à terme, etc. Là, ils les mobilisent et ils les utilisent pour financer leur activité et pour financer leur commercialisation. La question alimentaire, là-dedans, elle n'apparaît pas beaucoup, en fait, mais elle est, en fait, ces acteurs la mobilisent beaucoup, mais comme un objet de lobbying. On fait pression en disant qu'on va nourrir le monde et que le monde va avoir besoin de nous. Et donc, on ne se positionne pas du tout dans des débats locaux. On se positionne dans des débats globaux pour légitimer, en fait, un droit d'exister et essayer de faire en sorte de ne pas être trop régulé par l'appareil politique, tout en bénéficiant des subventions qui existent pour... C'est toujours la même chose. Et il y a un mouvement qui est très représentatif de ça au Brésil, qui s'appelle Sou Agro, « Je suis agro », et qui donc a énormément de moyens pour faire de la communication, embauche des footballeurs pour communiquer autour des bénéfices de l'agribusiness, etc. Donc on a un très fort lobbying quand même autour de ces acteurs. Alors dans ce lobbying, il y a beaucoup de petits acteurs aussi, mais c'est clairement piloté quand même par ceux qui ont les moyens, et notamment par des multinationales de l'agroalimentaire. Donc on a ici des entreprises agricoles, produits et acteurs de la globalisation. On le voit vraiment dans les deux sens. Alors, on pirouette. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Un quart d'heure? À peu près? Bon, mais ça va être rapide, là, je pense. En parallèle de ça... J'ai pu mener des travaux donc sur ce que j'appelle les nouveaux paysans, ou en tout cas ceux qui se revendiquent comme tels, à travers donc des travaux sur les circuits courts et les AMAP, et puis une réflexion actuelle sur ce qui se fait au Brésil à travers les politiques publiques pour essayer de relocaliser des circuits de production autour de des cantines scolaires. Et ces nouveaux paysans se positionnerait plutôt dans le local. Alors d'abord, bon, il y a des éléments de contexte une fois encore. Donc la fin des paysans qui a été de multiples fois sonnée, avec alors plusieurs discours ici. Purseigle et Hervieux parlent de relégation hein, pour la micro-agriculture en fait, qui serait en voie de sortie des marchés et de l'activité agricole et du foncier. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, pas du tout d'accord avec ça même. Je pense que ça dépend beaucoup des contextes. Mais en tout cas, les paysans en général seraient voués à disparaître et auraient pour beaucoup d'entre eux disparu. Or, les paysans tels qu'ils étaient conceptualisés notamment par Mendras symbolisaient justement cette unité hein, de lieu, de travail et cette unité sociale autour de la communauté villageoise et de l'exploitation agricole. On avait vraiment là une symbiose étroite entre le social, le spatial et autour de communautés paysannes. Et aujourd'hui, donc ces paysans qui ont été pas mal décriés et puis qu'on voyait comme arriérés et qui étaient peu valorisés, reviennent sur le devant de la scène et deviennent des figures qui sont justement revendiquées par un certain nombre d'acteurs de la production agricole, à tort ou à raison d'ailleurs, mais je pense que ce qui est important, c'est quand même le fait justement que ça revienne et qu'on se revendique paysan à nouveau. Certains parlent de repaysanisation on vient remobiliser dans cette figure autour de savoir-faire et de questions liées de près ou de loin à du développement durable. Van der Plug, qui est un auteur hollandais, définit Alors lui, sa théorie, c'est qu'il y a des paysans en Europe, et donc il définit les attributs du paysan par une coproduction entre hommes et nature, donc cette imbrication étroite entre le destin des hommes et celui de la nature, par des processus encore artisanaux et des complémentarités justement entre différents types de production menées au sein des mêmes exploitations. Il nous dit bien que c'est dynamique et innovant, le paysanat, et qu'on n'est pas du tout sur un paysanat arriéré, qui mobilise donc des réseaux sociaux d'échanges locaux et qui est en recherche d'autonomie. Donc on voit derrière ces attributs qui mobilisent qu'on a cette question du local assez fortement présente et cette question aussi de la modernité, enfin de la modernité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas quelque chose de très contemporain qui casse un petit peu l'image du paysan arriéré et qui va disparaître. Et ces paysans, en plus, vont intégrer, ces paysans revendiqués, vont intégrer des nouvelles demandes sociales en matière de sécurité alimentaire et de qualité des produits. Donc c'est une façon pour eux de se positionner aussi par rapport à d'autres types de production agricole. C'est-à-dire qu'eux sont en mesure de répondre à des enjeux de société en les relocalisant et en répondant aussi à la demande de la société, chose que les autres ne font pas. Les autres, dont je parlais tout à l'heure, se positionnent sur des quantités globales à offrir pour pouvoir nourrir le monde, mais pas du tout sur des questions de demande sociale. Et les nouveaux paysans, donc, se revendiquant comme tels, renforcent ces pratiques d'autoconsommation et de diversification des productions pour répondre à cette demande sociale et renforcent aussi le lien entre producteurs et consommateurs et positionnent ça comme une des solutions à la crise alimentaire. Les systèmes d'acteurs qui s'organisent autour de ces paysans revendiqués, en général, s'organisent beaucoup autour du renforcement, effectivement, les recherches le montrent, hein, autour du renforcement de liens locaux, qui essayent en principe de se positionner hors champ agricole et de se positionner sur d'autres champs sociaux que celui de l'agriculture, et de se passer donc des OPA traditionnellement présentes en agriculture, bien qu'en général ils y reviennent par la petite porte parce qu'ils ont quand même besoin de soutien et d'organisation, à la fois public et privé. Et on constate, alors les différentes études qui ont été menées constatent donc que ces exploitants-là se positionnent dans des exploitations qui sont assez polymorphes, certaines pouvant effectivement relever des critères que décrivait Van der Plug tout à l'heure, mais pas tous, et sont soumis en tout cas assez fortement à une tension, une double tension entre besoin de survie économique et réponse à des nouvelles demandes sociales, et donc essaye par cette figure du paysan de conjuguer les deux en fait et de combiner une santé économique avec la réponse à des demandes sociales. Et donc eux positionnent la proximité comme une alternative, justement une alternative qui se situe à plusieurs niveaux, enfin qui nourrit plusieurs aspects de la vie en proximité. Je me mélange un peu les pinceaux, excusez-moi. Social d'abord, parce que ayant peu d'intermédiaires et valorisant une interconnaissance entre producteurs et consommateurs, donc il faut recréer du lien social. C'est toute la théorie de Yuna Shifolo notamment, hein, qui elle vraiment insiste sur cet aspect-là. Spatial aussi, dans la mesure où il y a une réappropriation d'enjeux locaux à travers les systèmes alimentaire, c'est ce que Yuna Shifolo justement appelle l'empowerment. Donc elle dit qu'il y a à travers ces réseaux-là et à travers les figures paysannes de la production agricole une réappropriation d'un ensemble d'enjeux qui vont au-delà de l'alimentaire. Donc on retisse du lien autour de l'alimentaire, mais on répond aussi à des enjeux locaux qui vont bien au-delà. Des proximités qui se jouent aussi sur les plans culturels et politiques, on réapprend. On se positionne sur des positions assez proches et on va donc établir petit à petit des transversalités à l'échelle locale. Donc cette idée d'une relocalisation et d'une réappropriation locale d'un ensemble de faire et de savoir-faire autour de l'alimentation. Bon, excusez-moi, c'était un peu confus cette deuxième partie. Alors, à quoi ça m'amène en termes de réflexion tout ça ? Ces deux formes sociales en fait de production, l'une plus revendiquée que réelle, c'est-à-dire je ne suis pas allée vérifier si effectivement toutes répondent aux critères établis par Van der Plug, mais en tout cas cette revendication paysanne et de l'autre côté j'ai vérifié les exploitations qui tendent vers la firme, toutes les deux en fait, contrairement à ce qui est affiché d'un côté, sont inscrites dans un espace global et dans des dynamiques d'un espace global. Les circuits globalisés des firmes, des agricultures de firmes, donc ça je pense que c'est assez clair juste au travers de leur description, mais justement les paysans et les circuits courts dans lesquels ils affichent leur appartenance sont hyper connectés aussi à un espace global qui est celui des idées, hein, et on voit que la circulation des idées ici et la circulation des initiatives autour de la création de groupes qui alimenteraient des circuits courts et la création de circuits courts a beaucoup œuvré justement à leur apparition. En France, on considère que les AMAP nous viennent d'une initiative qui a été étudiée par des gens de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont allés aux États-Unis, qui eux-mêmes avaient hérité l'idée du Japon. Donc on voit qu'il y a toute cette circulation en fait des idées et des initiatives qui participent à la multiplication de ce type de réseau, qui s'inscrivent en retour comme extrêmement locaux dans leur organisation. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas les déconnecter justement d'un espace global. Et donc la globalisation, elle est ici, à mon sens, un facteur de diffusion des modèles. Alors des modèles, des micros, des réseaux locaux, mais aussi des agricultures de firmes via d'autres processus qui sont ici davantage économiques et financiers, alors que sur les circuits courts, c'est davantage sociaux. Mais toujours est-il qu'ils s'inscrivent, à mon sens, dans un espace global. Un deuxième champ de réflexion, c'est autour des interpellations qui sont récurrentes et qui sont faites à l'un et l'autre de ces modalités d'organisation. Le premier, c'est évidemment la place de la demande sociale dans les circuits qui sont pilotés par les firmes, hein, donc ils ne se positionnent pas du tout par rapport à ça, ou en tout cas éludent assez largement cette question-là. Et donc on peut vraiment s'interroger sur leur capacité à répondre à cette demande sociale. Mais à l'inverse, dans les circuits plutôt locaux, on peut se demander, et c'est ce qui leur est souvent renvoyé d'ailleurs, hein, sur leur capacité à subvenir à des besoins alimentaires à différentes échelles, c'est-à-dire qu'ils se positionnent toujours à l'échelle locale, mais lorsqu'on change d'échelle, quid de ces modèles et de ces systèmes, et quid des complémentarités entre différentes régions de production en fonction de leur capacité de production. Un élément, je pense aussi, que nourrissent ces deux figures extrêmes, c'est l'attractivité de la profession agricole. Il me semble que l'un et l'autre, en fait, redonnent de l'attractivité à la profession agricole. Autour des circuits courts et de la figure paysanne, parce qu'on revalorise socialement une activité qui était jusqu'alors assez peu valorisée et qui était assez peu suivie, en fait, par les jeunes. Et de l'autre côté, du côté de la firme, cette profession, qu'on ne peut plus appeler vraiment agricole, elle redevient attractive aussi. Il suffit d'aller voir les écoles d'agronomes en Argentine, au Brésil et en Ukraine, pour voir que il y a une file d'attente assez importante pour rentrer dans ces entreprises-là et se lancer dans ce type d'activité avec des objectifs qui sont plus ceux forcément de l'alimentaire, mais qui sont beaucoup plus orientés vers le mode économique. Et une question qui est, à mon avis, centrale et que j'aimerais bien m'attacher à creuser plus avant maintenant, après ces résultats vraiment préliminaires, c'est celle justement de la coprésence de ces différentes formes dans les territoires. Hein, comment est-ce que ces formes-là sont présentes ensemble ou pas ? Comment est-ce qu'éventuellement elles s'excluent ou pas ? Et lorsqu'elles sont présentes ensemble dans des territoires, comment est-ce qu'elles articulent leur activité ? On voit des choses très différentes. Deux exemples. Au Brésil, il y a, à mon avis, sur l'état de l'ouest de la Bahia, une exclusion. C'est-à-dire que l'arrivée des agricultures de firmes exclut assez clairement des espaces productifs la petite agriculture. C'est pas du tout le cas en Ukraine, où le système foncier, en fait, les amène à rester complémentaires dans la mesure où les villages paysans demeurent et les firmes sont dépendantes en fait des lopins des paysans parce qu'il n'y a pas de transmission encore de la propriété. On doit louer, on ne peut pas acheter et donc on est obligé de composer avec les populations paysannes qui sont là et qui possèdent le foncier officiellement. Donc il y a ici plutôt une complémentarité en Ukraine, pour l'instant en tout cas, et tant que le droit foncier reste ce qu'il est actuellement. Donc là, il me semble qu'il y a un besoin d'étude de cas, en fait, pour essayer de voir dans quelle mesure ces différentes formes peuvent cohabiter ou pas, et s'exclure ou pas, et puis quelle forme ça peut prendre en fonction des contextes géographiques. Et bien sûr, quelles sont les ruralités associées? Une des questions que j'aimerais bien aussi travailler à l'avenir, c'est les ruralités des espaces des agricultures de firmes. On a là des ruralités assez désincarnées, des ruralités de passage. Ce sont plus des espaces de vie, ce sont des espaces de travail. Et j'aimerais bien essayer de voir comment on les vit justement en passant et en les pratiquant pour des objectifs uniquement fonctionnels. Et bien sûr, comment les politiques publiques vont s'emparer des enjeux qui sous-tendent tout ça. Il faut mûrir un peu certaines choses, mais voilà, j'en suis là.